ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.
Chers auditeurs de Radio B, je vous salue et je suis heureuse de vous retrouver pour une heure consacrée à un livre de Sylvain Tesson, paru en janvier de cette année aux éditions des Équateurs, qui a pour titre « Avec les fées ». Il se trouve qu'il y a 4 ans, en mars et avril 2020, pendant ces mois de confinement qui nous tenaient enfermés dans nos maisons, rappelez-vous, j'avais eu le grand plaisir à lire depuis chez moi et à vous faire entendre sur Radio B de larges extraits d'un livre du même Sylvain Tesson, « La panthère des neiges », qui est ensuite devenu un film, tout aussi apprécié que le livre. Il n'était pas question alors de considérer l'auteur comme un vilain petit canard, une icône de l'extrême droite, contre lequel se sont insurgés récemment les signataires d'une tribune parue dans le journal Libération. Qu'a donc fait Sylvain Tesson pour mériter cette levée de bouclier? Eh bien, il a été sollicité pour être le parrain du Printemps des Poètes 2024, qui a pour thème la grâce. Alors, sans m'étendre davantage sur cette polémique, dont on a fini par comprendre qu'elle visait en fait la direction actuelle du Printemps des Poètes et qu'il s'agissait en fin de compte de l'éternelle querelle entre les anciens et les modernes, ces derniers reprochant à leurs aînés de prendre trop de place sur la scène poétique et d'empêcher ainsi les amateurs de poésie d'apprécier pleinement les innovations dont ils se disent porteurs. Eh bien, dans ce genre de débat, plutôt que d'évaluer la valeur poétique d'un auteur en fonction de son âge ou de son orientation politique, je me range aux côtés de Georges Brassens pour affirmer avec lui que « le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con. Entre nous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. » Alors, chers jeunes poètes contestataires, gardez s'il vous plaît vos indignations pour des sujets qui en valent la peine, et ça ne manque pas de nos jours. Montrez-vous juste digne d'être des poètes, et lorsque vous condamnez l'autre au nom du droit à la différence, prenez garde qu'un jour prochain, la même condamnation ne s'abatte sur vous. Tout cela pour dire que, quitte à passer pour une vieille conne, j'affirme sans aucun complexe que j'aime la parole à la fois rugueuse et sensible, pleine d'intelligence et d'humour de Sylvain Tesson, et qu'il m'a paru opportun de la partager avec vous, car je trouve chez lui, qui ne prétend pas être poète, plus de poésie que chez bien des auteurs qui prétendent l'être. Si vous me faites la grâce de m'écouter au-delà de ce préambule, cela vous permettra à tout le moins de vous faire un point de vue sur pièce et non d'après la rumeur. Et puis, nous étions déjà en mer récemment pour l'émission de décembre. Alors restons-y encore un peu avec quelques moments pris dans cette épopée de 3 mois entre juillet et septembre 2022, avec les mots de Sylvain Tesson et avec des musiques dont je vous donnerai les références en fin d'émission. Première question, quelles sont donc ces fées à la recherche desquelles Tesson s'est embarqué un jour de juillet 2022? Voici quelques éléments de réponse donnés dans son avant-propos. L'été commençait quand je partis chercher les fées sur la côte atlantique. Je ne crois pas à leur existence. Aucune fille libellule ne volait en tutu au-dessus des fontaines. Le mot « fée » signifie autre chose. C'est une qualité du réel, révélée par une disposition du regard. Il y a une façon d'attraper le monde et d'y déceler le miracle. Le reflet revenu du soleil sur la mer, le froissement du vent dans les feuilles d'un hêtre, le sang sur la neige et la rosée perlant sur une fourrure de bête, là sont les fées. Un cordon littoral court de la Galice espagnole jusqu'au Shetland écossaise, hérissé d'ajoncs, salé d'embruns, surveillé par des mouettes. Elles ricanent de voir la mer s'enrager en contrebas. Chaque soir, le soleil venait mourir au bord de ce balcon. Les historiens débattaient pour savoir si l'on pouvait donner le nom de Celtes aux peuplades qui s'étaient éteintes sur le parapet. Puisque le jour venait se coucher ici, j'associais ce couloir de l'iode et du granit à la patrie des choses mortes, les plus belles. Les fées avaient dû se réfugier dans ses extrémités, à la pliure de la terre, de la lumière, de la mer. Les promontoires de Galice, Bretagne, Cornouailles, du Pays de Galles, de l'île de Man, de l'Irlande et de l'Écosse dessinaient un arc. Par voie de mer, j'allais relier les miettes de ce déchiquetage. Sur cette courbe, on était certain de capter le surgissement du merveilleux. Un voilier de 15 mètres de long m'attendait au port de Giron, à bord deux amis, Arnaud Human et Benoît Letéron, préparaient l'appareillage. Nous naviguerions vers le nord, passant en revue les promontoires où de vieilles présences attestaient chaque soir les adieux du soleil. Puisque la nuit était tombée sur ce monde de machines et de banquiers, je me donnais 3 mois pour essayer d'y voir. Je partais avec les fées. Chapitre 1. En Espagne. Ces heures devant le golfe de Gascogne, jambes dans le vide, au-dessus du ressac, à 50 mètres en contrebas, m'inspirèrent une théorie du promontoire. Le promontoire recèle 3 trésors, la promesse, la mémoire, la présence. On se tient au bout d'un cap de l'ouest, impatient de ce qui surgira, la promesse. Heureux de ce qui se tient dans le dos, la mémoire, et campé sur la falaise, la présence. Devant, la mer, le ciel s'y fond. Les hommes appellent horizon cette sublimation. On regarde le gaz, on rêve d'aventure. Les oiseaux sont libres, ils crient ironiques, la mer dit « Là-bas, au-delà de la vue, une énergie inextinguible alimente mon mouvement dont chaque vague est la preuve. Derrière, s'étend le pays avec ses guerres et ses fêtes et tous les êtres qu'on laisse dans le dos. C'est le livre des hommes dont le récit a poussé certains personnages sur le bord de la page, c'est-à-dire de la plage. Au-dessous, la paroi. Elle ancre la terre dans la mer. Les roches cristallines ou magmatiques, schistes, basaltes, granites, résistent au ressac, qui est la guerre du temps contre l'espace. Le monde se défend de l'usure. Le promontoire encaisse le choc. Parfois, une aiguille oubliée se dresse face au lointain. Les peuples des promontoires, de Galice, Bretagne, Irlande, Calédonie, se campent devant le large de toute la puissance de leur mémoire. Rivés à l'histoire, ils projettent le regard à l'horizon. La terre, truffée de morts, se déploie derrière eux. Les pensées prennent leur élan. Rien ne saurait les arrêter. Devant, un roman. Derrière, le récit. Une patrie pour les hommes d'ouverture, ne dédaignant pas l'arrimage. Partir sur un voilier, c'est aussi une forme d'aventure et de confrontation avec les éléments. Et de cela aussi, il est question dans le livre. On partit. La traversée du golfe de Gascogne prit 3 jours. Nous visions Audierne, plein nord. Le 360 degrés, bel objectif pour la vie. Vers le nord, on simplifie. La mer était grosse, enceinte de poissons. Les dauphins frôlaient la coque, lisses, claires, galbées, des escort girls et infidèles. Quand un autre bateau s'annonçait, il gazait. Le vent soufflait trois quarts nord-est, il se maintint à 25 nœuds et nous étions heureux. La navigation à la voile consiste à régler cap, allure et gîte pour parvenir à l'ataraxie. Idéalement, quelques menus gestes suffisent. Si pendant quelques secondes on réussit à ne plus bouger un doigt, c'est le triomphe. Le bateau fuse, l'équilibre règne, les axes s'ordonnent, la mer, l'homme et la machine sont harmoniés. Le temps s'arrête. Le monde est une harpe. Celtique, of course. La navigation à la voile réalisait le rêve d'Héraclite, libérer l'énergie de la conjonction des contraires. Au départ, tout s'oppose. Le poids enfonce la coque, la poussée la relève. La gîte s'accroît, le vent adonne puis refuse. La mer freine, la vague entraîne, l'étrave frappe. Soudain, l'instrument s'accorde, les tensions se résorbent. Alors, pour un instant, le marin demeure immobile, jouissant de l'équation. En un endroit précis du bateau, situé légèrement sous le pont, convergent les forces. On appelle point vélique cette croisée des poussées. Seul ce point est animé. Il meut la masse. Est féerique le moment où la perfection des choses autorise à ne plus faire un geste. À quand la vie vélique ? Chapitre 2. En Bretagne. Au cours de son périple, Sylvain Tesson quitte de temps à autre ses amis marins pour parcourir le bord de mer, à pied ou en vélo. Voici quelques morceaux de texte inspirés par ses escapades à terre en solitaire. En contrebas du chemin, les falaises tenaient bon, torturées. En bouffant la mer salive. L'eau déchirait les roches, mais l'air était une caresse. La Bretagne, ce corps doux sur des pieds déchiquetés. Le temps passait, je marchais. Le sentier breton se file à couper l'heure. La bruyère faisait des taches mauves dans l'or des genêts, subtils aplats de peintres de la Renaissance, le jaune, le vert, le violet. Quelques maisons du bonheur prenaient les derniers rayons, Vélux sur la mer et grosses bagnoles garées derrière les haies. Des mères libérales devaient s'occuper de coucher les enfants dans des pyjamas à rayures. Je pensais au Knulp d'Hermann Hesse, le vagabond qui avait mené des jours insouciants sur les routes poudrées. Une existence avec les fées. À la fin, il mourait le dos contre un arbre dans la nuit. En bas, il voyait s'allumer les lumières du village et se disait à peu près « Ils sont heureux dans leur foyer. Je vais mourir tout seul. » De quel côté de la fenêtre faut-il mourir ? Libre et seul dans la forêt ? Ou bien accablé d'ennui avec ses gentils enfants ? Je n'étais pas l'enfant de cette baie bretonne, j'étais son adorateur. Et la perfection esthétique de ce parvis de sable d'or souligné de rides me rassurait. La certitude d'un ordre de la beauté tranquillise les âmes instables. L'éperon pénétrait le ressac. Comme la roche semble fière, fouettée de blanc. La bruyère et le genêt adoucissaient ce combat. La robe des chevaux ondulait par-dessus les ronciers. Un menhir de 3 mètres à la tête du promontoire parachevait l'ordonnancement. Ce paysage était parfait, puisque intouché. La perfection, c'est l'inamovible. Pourquoi avoir levé les pierres ? On touchait le menhir, on s'y adossait, on caressait cette chose pétrifiée, mais on ne savait rien. On quittait la place, légèrement honteux de ne rien entrevoir à ce mystère. J'avais une théorie. Une société balbutiante, jeune de sa propre histoire, trouvait dans l'art mégalithique un moyen d'annoncer sa puissance. « Regardez de quoi je suis capable, disait la tribu. Je peux lever 12 tonnes. » « Et moi, 20 !» disait l'autre. Le menhir aurait ainsi servi à exhiber son degré d'organisation et sa force. Les ours expriment la leur à la taille de leurs griffes sur l'écorce de l'arbre. Il fallait un ordre pour aligner ces pierres. « Dis-moi ce que tu dresses, je te dirai ce que tu vaux. » Dans l'expression « pierre dressée », le mot « dresser » est le plus important. Il fallait chercher la clé en lacanien. L'aventure humaine avait consisté à dresser le monde, donc à le soumettre. Le feu avait dressé l'outil, l'élevage, la bête, l'agriculture, le grain. Et l'homme, lui-même, s'était dressé pour étouffer en lui les orages bestiaux. Aligner les pierres, la plus ostensible preuve que l'homme pouvait réagencer le monde. Le menhir était la représentation de sa volonté. La géologie avait couché les strates, l'homme les relevait et couvrait la terre des preuves de son pouvoir. Le menhir devenait le coup d'envoi de l'âge technique, pierre inaugurale de la transformation du réel. On imaginait le raccourci façon Stanley Kubrick. Un mégalithe, puis la fission de l'atome. Le cap de la Chèvre sépare les mondes. À l'est, la baie de Douarnenez. À l'ouest, la mer d'Iroise. D'un côté, les eaux gentilles bordées de fleurs. De l'autre, la houle fracassée sur les roches. À l'est, le charmant. À l'ouest, le furieux. À l'est, les clubs de voile pour enfants réussis. À l'ouest, des rouleaux fous pour surfeurs malheureux. Le cap faisait la frontière avec un sémaphore pour la communication. On tourna la pointe. Le sentier remontait vers le nord. Les promontoires se succédaient, alignés pour le départ. Entre chaque dent, la strie d'écume mauve de soleil. Les vagues se succédaient en rang volontaire. L'univers est un rythme. La mer n'est jamais lasse. La terre se retient. Il y a la mer imperturbable, la terre imprenable, le mouvement perpétuel, le ciel impassible et l'homme parfaitement égaré. Ce matin, j'appelais merveilleux tout chemin creux descendant à l'estran, un tunnel de lumière bordé de ronces menant à la vie. La nature aime à se cacher. Personne n'avait jamais percé le fragment d'Héraclite. Parfois, le monde se dévoile, c'est l'estran. Sur la frange, découverte à marée basse, fermente une pâte. 6 heures au soleil, 6 heures sous l'eau. 4 fois par jour, la vie se dépêche de changer de substance. Ce n'est pas long, 6 heures, pour accumuler les nouveaux nutriments. 6 heures de photons, 6 heures d'iode. 6 heures pour les poissons, 6 heures pour les oiseaux. Les crabes assurent la permanence. Ces surfaces provisoirement découvertes étalaient leurs bandes molles, coiffées d'algues et de flaques oubliées, où se diffractait le ciel. On marchait dans la vase entre les écueils. 6 heures plus tard, l'œil ne verrait plus rien de la surface où s'enfonçaient les pas. Ce qui me plaît chez Sylvain Tesson, c'est sa capacité à établir des liens entre les différentes composantes des lieux qu'il traverse. Ainsi, géographie et histoire nourrissent une réflexion sur le monde et sur la place de l'homme. Et pour que cette réflexion advienne et permette d'entrevoir l'essentiel, je pense comme lui qu'il faut arriver à se désengluer du quotidien, à évacuer l'accessoire, à désencombrer son regard. Tesson, lui, a besoin d'être un aventurier de l'extrême. Moi, qui n'ai plus les capacités ni l'envie de me mettre en danger, je me rends compte que je ne vis jamais plus intensément que lorsque je retrouve un lien avec la nature, loin des artifices de la modernité. Et c'est justement en arpentant les sentiers côtiers en Bretagne que j'ai pu percevoir à quel point une journée passée à marcher au bord de l'océan permet d'y voir plus clair et puis tout simplement de se réjouir d'être en vie. Pour Sylvain Tesson, cela s'appelle le merveilleux et il en parle à la fin de ce chapitre sur la Bretagne. Le merveilleux surgit du réel. Nul besoin d'associer la splendeur d'un lieu ni l'électricité d'un moment à une construction de l'imagination. La dryade ne rehausse pas le sous-bois, ni la naïade la fontaine. Tout juste le kitsch excite-t-il l'esprit paresseux ? Faut-il une nymphette pour s'émouvoir d'une source ? Le merveilleux est ce qui suffit dans ce qui se donne. Ainsi dit Goethe dans Le Divan. Ce point où la vie se réjouit de la vie. Le merveilleux n'a pas de source culturelle. Émanation sans cause, rayonnement débarrassé de ses pourquoi, on ne saurait l'arc-bouter aux références. Le merveilleux attend l'œil. Qu'est-ce que le regard ? La pauvre aumône de l'homme à la nature. Souvent, personne ne considère ce qu'il a sous les yeux. Et la roue de l'actualité, bruit et laideur, chiffres et raisons, continue à tourner, écrasant des hommes ivres d'envie, farcis de projets, grimés de phares, fous de malheur, parfaitement aveugles.
Thank you.
Sylvain Tesson et ses deux acolytes quittent les côtes bretonnes pour rejoindre celles de la Cornouaille. Et nous arrivons au chapitre 3, en Angleterre. À Land's End, on vira pour tourner les Cornouailles. J'aimais dire des choses comme cela qui faisaient très spécialiste des choses maritimes. Les courants cabrèrent le bateau. Parfois, dans les rafales, une décharge électrisait la coque. La mer transmettait sa jeunesse à la masse. Le bateau frémissait, la joie d'un cheval ébrouant sa liberté à la sortie du pré. « On fait du nord », dit Benoît. Belle expression de marin, on aurait cru une devise de nuage. « Tesson à l'eau dans 5 minutes !» Au soir tombant, Humann jeta l'ancre sous le promontoire de Tintagel. Cette pointe était un berceau. Là naquit le roi Arthur. La mythologie s'appuyait, elle aussi, sur les promontoires. La question était de taille. Tout commence-t-il ou finit-il à la pointe? La terre acide était élastique. Le pied rebondissait. Une végétation humide cascadait du haut des parois. L'air était soyeux, la falaise haute. Il convenait de ne pas trébucher. Courir sur les falaises procure une illusion de légèreté. On se prendrait pour le Peer Gynt d'Ibsen, errant dans les steppes. Courir rend fou. Ou bien est-ce la folie qui fait courir? S'échappant, on croit échapper à soi-même. On accélère, on est toujours le même. La lumière du soir allumait les graminées. L'écume des herbes ourlait le vide. Le château était construit sur un éperon séparé de la côte par une entaille, reliée par une passerelle. Cette plateforme tenait du dessin de Hugo et de la description de Jules Verne. Quand réussirais-je à ne plus verser mes souvenirs de lecture au paysage? Sur ce plateau suspendu, la légende situait la naissance du roi Arthur. Exista-t-il seulement? L'historiographie mentionnait un seigneur du nom d'Arthur à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, dans le pays de Galles ou quelque part au sud-ouest de l'Angleterre. Homme de guerre, il aurait fédéré les troupes et mené la bataille contre les barbares, entendre par là toute bande venue de l'Est. 7 siècles plus tard, les poètes s'emparèrent de ces informations fragiles. Au XIIe siècle, Geoffroy de Monmouth, sorte de Virgile atlantique, dans son Histoire des rois de Bretagne, inventa de quoi réjouir les enfances modernes. La naissance bâtarde du roi Arthur à Tintagel. Uther Pendragon, son père royal, l'enchanteur Merlin, l'épée Excalibur et la mort d'Arthur à Avalon. Puis, Chrétien de Troyes versa à cette histoire le mystère du Graal, la foi catholique et l'ordre de la table ronde. Il peinturlura le mythe avec les motifs de sa propre époque. Il fit de la cour d'Arthur la capitale de l'esprit chevaleresque. Le tout baigné dans la merveilleuse phosphorescence du paganisme forestier. Il mit le fantastique dans le réel et versa la foi chrétienne dans la mixture. Arthur rassemblait les siècles, compressait la profondeur du temps, assurait le continuum et synthétisait les époques. Moi, c'est dans le paysage que je plaçais le lien des époques. 5 millénaires conduisaient des dolmens à l'indépendance de l'Irlande, en passant par la quête du Graal. Ces chapitres recelaient la même essence océanique. Cette géographie sonnait un assaut permanent. La houle sur les falaises, les oiseaux sur les roches, le vent sur la lande, les herbes sur les haies, les mèches sur les épaules, les chevaux dans les bois, les chevaliers au tournoi, les spectres dans les âmes et le lierre sur les ruines. L'Ouest est une ruée. Et de la contemplation de cet ondoiement était née une vibration. La même harpe avait fait naître une civilisation de leveurs de pierre, puis une société de forgerons belliqueux, puis des clans de petits seigneurs paysans, puis des royaumes chrétiens, puis des sociétés de protestants industrieux. Le temps tramait ses nœuds. Le paysage assurait la navette. Le métier à tisser s'appelait l'histoire. L'étoffe était la nature. Le poète dessinait le motif final. Rien ne passe, après tout, si ce n'est le passant, concluait Aragon. Tout passe et tout s'efface. si ce n'est le poème, répondait la mère. Parfois, un cercle de pierres dressées. Le mégalithe était une réponse à la météorologie atlantique. Les pierres dressées ruissellent depuis 5000 ans sans fondre. Dans le vent violent, elles seules ne bougent pas. Le soir, je montais ma tente, 800 grammes, sur une plateforme d'herbe à 100 mètres au-dessus des phoques. Le paysage diffusait son extrême mélancolie. Les arches perdues et les tours ruinées, les grands aplats verts de gris coupés de barbelés, les criques rongées d'écume, les nacres d'étoiles d'araignées dans les ajoncs noirs, tout exhalait les temps engloutis. La tristesse expliquait le mythe arthurien. Étranglé de peine au bord du paysage mort, on attendait le retour du roi. Un jour, Arthur se réveillerait. Le règne reprendrait, les ronces reculeraient, alors le royaume endormi s'ébrouerait dans la joie. L'arthurisme est une espérance. Le celte, un homme de patience. Chaque soir, il voit le soleil mourir dans la mer et chaque matin revenir. Il sait que la houle bat, que la nuit ramène le jour, que la marée se retire et remonte. Sur le promontoire, il attend. Si la mer recommence, le roi reviendra. Rien n'est jamais perdu pour qui sait garder la mer. Rien n'est jamais perdu pour qui sait regarder la mer en face. Qu'est-ce qui émanait de la profondeur de ce vieux paysage ? Une grâce, dit Benoît, qui savait prier Dieu. Le merveilleux, dis-je, moi qui ne savais pas. Quelle était la différence ? Le merveilleux émane des choses, la grâce les surplombe. Le merveilleux est contenu dans le monde car il en est l'essence. La grâce s'en distingue car elle en est la source. Le merveilleux rayonne, la grâce ruisselle. L'un va de la chose à l'homme, l'autre du Créateur à la chose. Le merveilleux irradie du réel et se diffuse au ciel. La grâce descend des nuées et inonde la terre. Le merveilleux révèle par le regard une force contenue. La grâce convoque dans le cœur une présence extérieure. Le merveilleux est le nom du génie du lieu, ou mieux de son esprit, la grâce, celui de son gardien, ou pire, de son maître. Le merveilleux part du réel pour y revenir. La grâce descend de l'abstrait pour expliquer le monde. Le merveilleux est ici et maintenant. La grâce sera toujours ailleurs. Chapitre 5. En Irlande. Première escale, Cork, deuxième ville d'Irlande après Dublin. Et voici un aperçu de l'ambiance dans un pub irlandais. Sur une table, coincée près du comptoir, quatre musiciens donnaient des jigs et reels irlandais. Une fille brune était au fifre de bois et trois hommes au violon, à la guitare et à l'accordéon. Pendant 2 heures, le lancinement ne cessa pas. Il invitait à la danse. Mais dans la salle bondée, on ne pouvait faire un geste, seulement taper du pied. C'était une musique en spirale, convulsive, saccadée. Le tempo barattait l'air. Le crin-crin finissait par envahir l'esprit. La mesure revenait, ralentissait, repartait. L'archet frottait, les doigts grattaient, l'accordéon haletait et tout recommençait. La boucle se bouclait, la ronde s'enroulait, la musique reprenait. Elle ne racontait rien, ne menait nulle part, elle n'avait pas d'issue, mais l'oreille recevait sa pulsation. C'était une fièvre avec ses poussées. Que voulaient ces rengaines qui n'explosaient jamais et ne finissaient pas ? Elle rappelait la valse des heures, l'ennui des navigations sur le pont des bateaux. Elle décrivait les heures à attendre les marins qui ne reviendraient pas, les soirs de peine dans les villes de la révolution industrielle, et la cruauté du siècle prolétaire où seul le peuple procurait de la chaleur aux hommes broyés. C'était l'écho des temps de Dickens. Asphyxié de fumée, le prolo britannique s'assommait devant son verre pendant que le violon raclait la spirale de l'éternel retour, c'est-à-dire de l'éternel oubli dans l'éternel enfermement. « Hop, hop, baya, no future », grinçait le violon. « Encore un tour », disait la guitare. « Demain n'existe pas », crachait l'accordéon. « Alors, recommençons », concluait le fifre. C'était reparti pour un tour. Sous les sous-bocs électrisés par la fièvre, je traçais au stylo des dizaines de triskels, la spirale celtique à trois branches. Ce graphisme stylisait en une même volute, trois fois enroulée, la palingénésie du monde, recommencement des choses. Fallait-il prendre les gigs de ce pub et mes triskels de sous-boc pour la figuration du mouvement du ressac ? La mer toujours en allée, l'éternité toujours revenue, l'île en rond, les générations de fées, l'immortalité des guerriers, l'acharnement du mouton à raser l'herbe et l'acharnement de l'herbe à repousser, la course du vent et la rage infinie de l'écume ? Comment croire au sens de l'histoire ? À l'advenue d'un royaume céleste, à la vie éternelle, et pis à la perfectibilité de l'homme. Farce stupide, quand on vit près d'un régime de marée dans la folie des oiseaux. J'aimais ce moment de relais où l'on se passait le bateau comme un flambeau. La délicatesse consistait à arriver sur le pont un quart d'heure avant sa prise de quart. L'ami qu'on relevait avait déjà veillé 3 ou 4 heures. Il descendait retrouver sa couchette. Étrangement, on ne l'enviait pas. On prenait possession de ses propres quartiers de nuit, organisant les rêveries pour les heures qui venaient. La garde descendante allait se coucher, la garde montante devenait empereur des étoiles. De quoi se plaindre ? La couette ou le cosmos ? Choix du matin. À 5 heures, les îles d'Aran, gouttes noires sur l'horizon. Benoît visait Inishmain ou Sinch, barde des îles païennes, composa sa pièce de théâtre la plus farouche, la plus absconce, au titre indépassable, le baladin du monde occidental. Quand les îles approchèrent, le soleil était vif et les dauphins éclaboussaient la mer comme si elle était à eux. Sur Inishmain et sur Inishmore, on passa 2 jours au pas cadencé. Ainsi, de la vie de marin, à bord, heures interminables, à terre, tambour battant. Les murets des Aran traçaient des mosaïques. Vues par le myope, les îles avaient l'air d'échiquier. Les moutons faisaient les pions. Les blancs avaient gagné. Ces murs de pierre sèche retenaient la terre. Mieux, ils l'avaient constituée. Des norias de génération avaient charrié dans des paniers d'osier le goémon, le guano, le sable, marchant sous le fardeau de la plage à la terre, de la terre à la mer, saupoudrant la poudre du rivage sur les versants à nu, luttant contre le vent qui emportait l'espoir, et les murs avaient retenu la vie. Accumulés sous le ciel, les nutriments de la mer avaient donné son sel à la terre. Patiemment tassée, lavée de pluie, stratifiée par les siècles, cette poussière avait constitué un sol. Ainsi, la terre arable était-elle née de la prodigalité de la mer et de la patience des hommes. Ni promise, ni offerte, créée. Les îles avaient été fructifiées. Le soleil n'était pas un droit, mais une invention. L'histoire avait été le paysan de la géographie. Vertu des murs, sans eux, le vent est le maître. Grandeur des bocages, ce qui sépare, protège. De cette démiurgie avait jailli la douceur. Sinch, baroque et illisible, avait chanté cette humanité enracinée dans un sol par elle-même inventé. En face des îles d'Aran, c'est le Connemara, avec le port de Clifden, où le voilier accoste, pour permettre à Sylvain Tesson de partir explorer le coin à vélo. Le Connemara est un dos de bête usée. Le silence écrase ces pelades piquetées de lacs gris. Un paysage de retrait glaciaire a toujours des airs épuisés. Je pédalais 100 km dans ce sanglot. Il n'y avait que la terre desquamée, les collines harassées par les glaciations, la gouge des vallons et l'étranglement des ombiliques. Ce rabot faisait le gros dos sous le vent. Ce n'était pas le féerique du charme, mais le féerique du spectaculaire. Les dieux avaient tapé sur l'enclume au marteau. La fée ou le forgeron, la fontaine ou le marécage, le bosquet ou l'auge, le charme ou le grandiose. La recherche des faits imposait d'osciller dans ces dialectiques. J'aimais à m'avancer ainsi dans les tensions du monde, avec mon petit sabre de bois, et à jouer à trancher les nœuds et à choisir mon camp. Ensuite, j'écrivais à grands coups. Paf, le jour, paf, la nuit. La mer et la terre, la falaise et le bocage. Mes voyages balançaient entre les termes contradictoires. Mes livres enregistraient les images contrariées, le large et les îles, la cabine et le grand vent, le refuge et la paroi, la croix et le turban. C'était comme cela que je considérais la vie, une opposition, le mariage ou l'aventure, la verte clairière ou les rabots glaciaires, les enfants ou la vie. Et mon plaisir était de ne jamais m'éterniser dans les stades intermédiaires, d'éviter les transitions et de chercher son antidote à toute situation. J'allais du parvis à la nef, de la steppe à la ville, des chemins noirs aux chemins blancs. Entre l'arrêt et le mouvement, peut-être existait-il des gradations. Peut-être faudrait-il un jour user d'une autre méthode plus subtile. Elle consisterait à cesser le bras de fer. Alors, la vie ne se réduirait plus à la bascule d'un bord à l'autre. Il s'agirait de s'engager à pas feutrés dans la douceur des choses. Il faudrait s'entraîner. Yeats avait été l'un des promoteurs du renouveau celtique. Au XIXe siècle, l'Irlande survivait, miséreuse. Entre le chagrin et le sang poussaient quelques pommes de terre, les Anglais persécutaient l'air. L'acte d'union avait été signé en 1800, arrimage forcé de l'île verte à la Grande-Bretagne. Affamée, l'Irlande s'était ébrouée au milieu du siècle. Le mouvement Young Ireland, réunion d'artistes et de penseurs, sonna le réveil. Ce fut un combat des arts et des lettres. Il prépara les levées d'armes. En ce temps-là, les poètes amorçaient les insurrections. 200 ans plus tard, qu'est-ce qu'un poète ? Le mouvement ressemblait à son siècle. Partout en Europe, la révolution industrielle annonçait l'abolition de l'homme. Des cœurs purs entrevoyaient ce que le progrès leur ferait perdre. Déjà, la modernité donnait sa forme au monde, hideuse. La pollution, ombre du progrès, s'infiltrait dans les cœurs. Un siècle et demi plus tard, on en est à se demander si on pourra sauver les meubles. Parqué dans les murets des champs et la brique des usines, le peuple irlandais s'aperçut qu'il détenait une origine. Elle était glorieuse et noble, venus du ciel et de la mer. Les dieux et les marins s'étaient alliés pour inventer un peuple. On l'avait oublié. Le renouveau celtique servit à ranimer la flamme. Elle alluma les énergies. L'incendie mènerait à l'indépendance en 1921. L'Irlande est indépendante depuis plus d'un siècle. L'identité celtique est une sculpture taillée il y a 250 ans. Par une troupe de poètes, de marins, de paysans, qui ont lancé un appel dont l'écho s'amplifia. De la Galice à l'Écosse sonnent aujourd'hui les cornemuses d'une idée très récente, enracinée dans une mythologie très lointaine. Chapitre 6. En Écosse. Et là, ce sont les falaises qui fascinent les trois hommes sur leur voilier, des falaises avec des pilastres dressés devant elles, des piliers d'érosion nés du retrait de la côte sous les coups du ressac, des piliers que les Anglais appellent les stacks. L'un d'eux a pour nom « The Old Man of Hoy » et c'est celui que Tesson et ses camarades décident de gravir. Une façon d'aller à la conquête du Graal pour ces chevaliers du XXIe siècle. À l'aube, on grimpa le Old Man. Il fallut d'abord descendre la falaise jusqu'à la mer par des vires d'herbe iodée, traverser un platier basaltique jusqu'au pied de la colonne magique. Les fissures étaient humides. Un Anglais qu'on avait croisé la veille sur le ferry revenait de l'ascension du Old Man. On lui avait demandé ses impressions. « Pretty horrible ». Le cri des phoques n'arrangeait rien. Leurs agonies de cornemuses se répercutaient sur les ruines, les oiseaux nous insultaient, la mer bavait, le ciel roulait, le vent poussait ses lamentos et me retroussait le kilt. On se sentait de trop dans ce sépulcre. Soudain, on fut au sommet. À nouveau, ce sentiment de gratitude intégrale, moment fugace. À un court instant, l'univers vous procure sur le sommet ce dont vous ignoriez avoir besoin avant de l'atteindre. Avais-je atteint le Graal au sommet de ce stack ? Sur la plateforme, suspendue entre ciel et mer, je me tenais sur un point de contact entre le réel et l'idéal. Le réel, c'était le grès. L'idéal, le sentiment qui me gonflait le cœur d'être rendu là où je me devais d'être. Rien ne me donnait envie de descendre. Ni le vent ne soufflait assez, ni la pluie ne tombait encore. Mon sentiment de plénitude sous l'immensité du ciel trouvait une patrie de 10 mètres carrés bordée par 165 mètres de vide. pendant plus de 2 mois, j'avais baptisé « Surgissement de la fée », cette convergence des sensations, des émotions, des observations, cette croisée de transepts. Quelque chose pouvait apparaître pour peu qu'on s'en donnât la peine. Ici, les mains meurtries, debout au carrefour de l'espace, du temps et de l'effort, j'avais atteint la fine pointe inventée par Vladimir Yankelevitch, instant total où tout s'accomplissait, où l'homme éprouvait enfin la conscience d'être parvenu à ce qu'il avait désiré, sans avoir même su qu'il en rêvait. Et puis, un autre jour, en parcourant à vélo les collines de Shetland, Tesson prend conscience de la véritable nature du Graal. Quand je rentrais vers la baie de Quendale, le soleil passa sous les nuages et éclaboussa le monde de sa braise, et ce fut très brut et d'une noble force cosmique. Parfois, une phrase se rappelle à nous, Aragon, soudain. Le merveilleux est l'image clinique de la liberté humaine. La liberté était celle de regarder le monde éperdument, empli d'un amour pour toute chose qui défilait. Charge à nous de faire de la vie une forêt de brocéliande, bruissant du souvenir de nos proches défunts, de nos amis évaporés, de nos âmes sœurs, de nos frères d'élection et de nos rois choisis, de nos mentors élus et de nos saints patrons. Et dans les lacets qui me ramenèrent à la baie du voilier, je décidai que j'avais trouvé le Graal. Ce qui se tenait là, et pas ailleurs, était le Graal. On le trouvait quand on décidait que s'achevait la quête. Ce qui s'offrait au regard devenait l'opéra fabuleux, pour peu qu'on recourût à une petite manœuvre de la volonté. Il fallait vivre en spectateur et en vénérateur de ce qui se tramait. C'était à la fois la plus simple et la plus titanesque des conduites. Adorer la présence. Le Graal apparaissait donc, pour peu que l'on décidât la quête achevée. Alors, tout se révélait, et le monde suffisait. Pour moi, le Graal avait été le mouvement. Il prenait à présent le nom de la présence. Chapitre 7. Le retour. Un retour qui s'effectue par le canal calédonien qui leur fait traverser les Highlands d'est en ouest par les écluses. Et c'est encore d'un autre Graal dont il est question maintenant, un Graal tout en douceur, pourrait-on dire.
One morning as I went fowling, bright Phoebus adorned the plain. 'Twas down by the banks of Loch Aran, I met with this wonderful dame. Her voice was so sweet and so charming, these beautiful notes she did sing. And the innocent fowl of the forest, their love unto her they did bring. It being the first time I met her, my heart it did leap with surprise. I thought that she could be no mortal, but an angel who fell from the skies. Her hair it resembled gold dresses, her skin was as white as the snow, and her lips were as red as the roses that bloom around Loch Aran shore. When I found that my love was eloping, these words unto her I did say, oh, take me to your habitation, for Cupid has led me astray. Forever I'll keep the command. man. Fair maids who do yield to men's pleasures, the scriptures do say that they're wrong. Oh, Mary, don't accuse me of weakness, for treachery I would disown. I would make you a lady of honor if with me this night you'd come home. Oh, had I the lamp of great Aladdin, his rings and his genie, what's more? I would part with them all for to win you and live around Loch Erin's shore.
Alors arriva la fille rousse, à peau de nacre. Physiquement, elle sortait d'un tableau de Rossetti, peintre pré-raphaélite qui avait donné au musée des filles tristes, à cheveux de cuivre, yeux pâles et peau de nacre. Même ses gestes lents et raides fleuraient le médiéval. Elle descendait du bateau, se dépliant avec des déséquilibres de biche blessée. Si elle était passée par-dessus bord, elle aurait fait grande impression en Ophélie des Lorches dérivant dans les lentilles d'eau. Je l'avais invitée sur le pont. De Paris, elle rejoignit le bord à Inverness et le quitta au débouché du canal à Fort William. Entre les deux, silencieux, suivant le fil endormi, nous fîmes halte dans des pensions de famille tenant de Miss Marple pour la moquette à fleurs et de Psychose pour les boiseries flippantes. Nous nous aimions dans des lits à ressorts couverts d'édredons bariolés. Chacun trouve sa joie avec l'autre, écrit Chrétien de Troyes pour peindre les gaudrioles des chevaliers avec les dames. Cet euphémisme du XIIe siècle seyait à nos matinées du canal. Mais systématiquement, alors que nous étions en train d'échanger baisers et autres manifestations joyeuses, Chrétien de Troyes encore, les taulières des pensions anglaises entraient par hasard dans la chambre et refermaient la porte violemment en poussant des « Oh my God !» stridents. Pendant 4 jours, écoutant la conversation de la fille rousse, étourdie de sa beauté lente, je précipitais au fond du Lorch toutes mes constructions d'écoliers romantiques sur le Graal, faites de saisissements goethéens, de pureté chevaleresque et de féerie celtique. L'amour suffisait à donner son visage à la quête, son existence au Graal. Le Graal est le mouvement, avais-je d'abord cru, perché sur les Stax. Le Graal et la présence, avais-je ensuite pensé dans la nuit des Shetland. L'amour offrait les deux. Mouvement vers la présence. Peu importait la fin du monde, pourvu qu'on s'endormît amoureux. Et c'est ainsi, dans les chambres surchauffées des auberges à pivoine, que le plafond devint un ciel étoilé, au moment même où la lampe, avec son abat-jour à gland, tombait de la table de chevet, et que la taulière frappait ses coups à la porte pour la 3e fois de la matinée. Voilà, il est temps de débarquer pour nous aussi. J'espère que vous avez apprécié le voyage et peut-être aurez-vous le désir de lire en entier le livre de Sylvain Tesson « Avec les fées » publié aux éditions des Équateurs. En accompagnement de ces extraits, vous avez entendu successivement un air traditionnel de musique celtique, joué à la harpe, qui s'appelle « Woman of Ireland », une suite pour violoncelle d'Ernest Bloch, jouée par Emmanuel Bertrand, 2 airs de harpe joués par Marielle Nordman, un prélude de Claude Debussy et un traditionnel, ensuite un traditionnel celtique intitulé « The Jura Wedding Reels », et puis un titre assez imprononçable que je vais tout de même me risquer à vous dire, « Caoinet Eogan Rua », et ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'adore l'Irlande, mais je ne suis pas douée pour le gaélique. Enfin, un chant a cappella qui s'appelle Loch Earn's Shore, la plage du lac Earn. Je vous retrouverai avec plaisir le jeudi 21 mars prochain. À cette date, le printemps des poètes battra son plein et Voix Mêlée vous aura déjà proposé de nombreuses animations. Pour en savoir plus sur le programme que nous vous proposons cette année, rejoignez-nous le mercredi 6 mars à 18h dans l'atrium du CRD, pour la soirée d'ouverture qui mêlera poésie, chant, danse et musique. C'est gratuit et vous pourrez repartir avec la brochure complète de toutes les manifestations poétiques à travers la ville au cours du mois de mars. Avant de se quitter, une dernière citation dont Sylvain Tesson ne donne qu'un fragment, et je trouve que ça vaut la peine de la dire en entier et d'en faire peut-être notre devise. « Il n'est rien de si précieux que ce temps de notre vie, cette matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le firmament de l'éternité, ce minuscule printemps qui ne sera qu'une fois et puis jamais plus. » Une phrase de Vladimir Yankelevitch dans « Le je ne sais quoi et le presque rien ». À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.